Ce que nous mentionnons dans notre rapport, c'est qu'il y a une réaction tardive de la part du M3S.
C'est pour ça qu'on demande clairement au gouvernement fédéral aujourd'hui de fermer le chemin Roxham parce que ça devient comme impossible à gérer.
Nous continuons et continuerons de lutter contre les obstacles qui empêchent l'accès à un avortement sûr et sécuritaire.
Bonsoir. On se replonge ce soir dans les tout premiers mois de la pandémie, une période où, rappelez-vous, les travailleurs de la santé étaient à court de masques, de blouses, de gants, de tout ce dont ils avaient cruellement besoin pour se protéger du virus. Mais dans un nouveau rapport, la vérificatrice générale du Québec expose les ratés du gouvernement dans sa gestion de ses équipements de protection. Le gouvernement n'en avait pas en réserve et il a trop tardé à s'en procurer. Un fiasco qui, selon elle, a fait perdre presque 1 milliard de dollars à l'État. La vérificatrice Guylaine Leclerc sera avec nous dans quelques instants, mais d'abord, je retrouve mon collègue Simon Bourassa à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Donc, la vérificatrice générale signale une fois de plus dans ce rapport que le ministère de la Santé n'était vraiment pas préparé à une telle pandémie.
Il était loin d'être prêt, n'était pas prêt à l'imprévisible, on va le dire comme ça. Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, le gouvernement du Québec, Noémie, qui a acheté pour 3 milliards de dollars d'équipements de protection individuelle, mais on n'avait pas d'infrastructure informatique pour faire le suivi des inventaires. On n'a pas réussi non plus à avoir un inventaire fiable de cet équipement de protection avant le 6 mars 2020. Pour vous donner une idée, là, en Alberta, dès décembre 2019, on a doublé les commandes d'équipements de protection, si bien qu'on n'a pas été pris dans toute la folie avec la hausse fulgurante du prix de ces équipements. Le premier cas de COVID au Canada, pour vous donner une idée, là, ça arrive le 27 janvier 2020. Donc, le matériel qui a été acheté au cours de la pandémie pour 1,2 milliard de dollars vaut au 31 mars 2021 539 millions. Donc, c'est là qu'on peut calculer les pertes financières engendrées par cet achat de matériel. Il y a aussi du matériel qui était non conforme à un moment, qui a été éliminé par le ministère de la Santé et des Services sociaux parce que, justement, bon, c'était pas ce qu'on voulait, c'était pas ce qu'on souhaitait, il était pas conforme, mais le ministère n'a pas laissé de trace. Donc, on n'a pas pu évaluer ces pertes-là du côté de la vérificatrice générale dans son rapport. Il y a eu des questions aussi de fiabilité et d'intégrité chez certains fournisseurs de matériel parce que dans la tourmente, en urgence, on a voulu bien faire, on a voulu acheter du matériel rapidement, ce dont parle d'ailleurs Mme Leclerc. On écoute.
Il y avait des éléments qui étaient faisables, qui auraient dû être faits, donc des vérifications qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. Faut savoir que le CHUC est en litige aussi dans certains dossiers. Il y a eu des règlements hors cours pour lesquels le vérificateur général n'a pas eu accès.
Et Simon, par ailleurs, le directeur national de santé publique a fait le point sur la pandémie. Aujourd'hui, on est à 3 jours du retrait de l'obligation de porter le masque dans les lieux publics et le docteur Luc Boileau juge que la situation demeure encourageante.
C'est ce qu'il a dit, effectivement. Donc, les décès sont en baisse, les hospitalisations sont en baisse, le nombre de travailleurs de la santé absents du réseau est également en baisse. Donc, le Dr Boileau l'a dit aussi, il va avoir moins de points de presse de la santé publique au cours des prochaines semaines. Donc, probablement qu'on va abandonner la formule du point de presse hebdomadaire où on faisait le point sur la pandémie, tant la situation, effectivement, est encourageante. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur les doses de rappel. Ça a été principalement le sujet de discussion de la conférence de presse aujourd'hui, les doses de rappel, la vaccination. Donc, pour ce qui est de la quatrième dose ou la deuxième dose de rappel, évidemment, on la conseille pour les gens plus vulnérables, les gens qui demeurent en CHSLD ou qui sont immunosupprimés, mais pas pour les autres, oui, comme l'explique le Dr Boileau.
Le comité d'immunisation du Québec considère actuellement qu'il y a peu d'avantages à recevoir cette deuxième dose de rappel si on ne fait pas partie de ses clientèles. Malgré cela, les personnes de 18 ans et plus qui pourraient s'en prévaloir, si elles le souhaitent, pourraient s'en prévaloir, si elles le souhaitent, après un consentement éclairé. On a parlé des personnes de plus de 60 ans il y a quelques semaines. Elles peuvent aussi aller le chercher et plusieurs l'ont fait.
Le Dr Boileau qui a également rappelé, Noémie, que pour la dose de rappel, la première ou la deuxième, il faut attendre 3 mois là, avant de recevoir une nouvelle dose.
Merci beaucoup, Simon. À bientôt.
Au revoir.
La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, est notre invitée. Bonsoir, Mme Leclerc.
Bonsoir, Mme Mercier.
Merci de vous joindre à nous. Alors, l'impression qui se dégage de votre rapport aujourd'hui, c'est vraiment que le gouvernement du Québec a dormi au gaz dans cet intervalle extrêmement crucial entre le moment où les premiers signes avant-coureurs de la pandémie se manifestaient et le moment où il a agi pour se procurer les équipements de protection individuelle. C'est quoi les signaux d'alarme qui auraient pu l'inciter à agir plus rapidement? Il y en avait tant que ça?
Mais ce qui est important de savoir dans un premier temps, c'est que le gouvernement du Québec avait mis en place, c'est tout à fait correct, un plan d'urgence sanitaire. Mais ce plan d'urgence sanitaire-là n'était pas du tout à jour. Il datait de plus de 10 ans et, entre autres, ne tenait pas compte de la grande réforme qui a eu lieu en 2015. Donc, ce plan, plan d'urgence sanitaire aurait dû être à jour. Dans un deuxième temps, il y avait, avant 2010, il y avait des réserves de pays d'équipements personnels, là, d'équipements de protection individuelle qui étaient en place, donc une réserve au cas où arriverait une pandémie d'influenza. En 2010, on a fait le choix d'écouler cette réserve-là, mais il aurait été très important, au moment où on a écoulé cette réserve-là, de compenser par d'autres actions, soit de s'assurer qu'on avait des fournisseurs avec qui on pourrait faire affaire, en tout cas, à tout le moins, s'assurer qu'on avait un plan dans l'éventualité où une situation pandémique, comme on l'a vécu, se présenterait. Et au niveau des signes avant-coureurs, bien, il y a eu de nombreux signes avant-coureurs avant mars 2020, au moment où on a décidé de faire des achats massifs d'équipements de protection individuelle. Et il y a eu beaucoup d'alarmes qui ont été émises par l'OMS. Et d'ailleurs, la province de l'Alberta, dès décembre 2019, avait déjà doublé ses achats de pays, alors que nous, avant qu'on fasse des achats massifs, ça a été seulement en mars 2020.
Mais comment vous expliquez ce retard? Est-ce que les gens au gouvernement ne lisent pas les avis de l'OMS? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle-là qui aurait pu changer le cours des choses?
Bien, beaucoup d'éléments problématiques. Bon, ce qu'on a dit, c'est naturellement le plan d'urgence sanitaire qui n'était pas à jour. Il y a aussi le fait qu'il y avait des problèmes d'inventaire. Donc, on n'était pas en mesure de savoir combien de stocks qu'on avait. Chacun des établissements, on le sait, hein, chacun des CIS, des CIUS ont leur propre système. Eux-mêmes devaient compter les équipements qu'ils avaient, transmettre l'information au ministère. Souvent, ces informations-là étaient faites de façon manuelle. Donc, il y avait vraiment beaucoup de problèmes qui étaient en place. Il y a eu aussi des problèmes de formation. Ça n'a été qu'à l'été 2020 qu'on a formé 12 000 personnes en collaboration avec la Croix-Rouge.
À utiliser ces équipements-là. Est-ce que ça a coûté des vies, ces problèmes de gestion, dans les EPI, à votre avis, en terminant?
On n'est pas en mesure de dire quel impact ça a pu avoir. Nous, ce qu'on fait, c'est des constats factuels et on fait des recommandations et on va suivre les recommandations de manière à ce que la situation soit corrigée à l'avenir.
Merci beaucoup, Guylaine Leclerc, d'avoir été avec nous ce soir.
Ça m'a fait plaisir.
Le premier ministre François Legault demande à Ottawa de fermer le chemin Roxham. Depuis sa réouverture en novembre dernier, des milliers de personnes ont emprunté cette voie d'accès irrégulière dans l'espoir de demander l'asile au Canada. Le premier ministre Legault a plaidé que le Québec n'avait pas la capacité d'accueillir toutes ces personnes, dont le nombre pourrait atteindre 36 000 cette année si le rythme actuel se maintient, a-t-il estimé. De son côté, le Parti libéral soutient que ce serait inhumain de fermer cette voie puisque les migrants trouveraient alors d'autres moyens de traverser la frontière.
On est la seule province là, qui a un chemin tout grand ouvert qui s'appelle Roxham, puis que le gouvernement fédéral, qui est responsable de contrôler les frontières, fait pas sa job. Si le gouvernement fédéral n'est pas capable de gérer rapidement l'immigration, mais qui nous transfère les pouvoirs.
Il bénéficie d'un hébergement temporaire d'une durée moyenne de 15 jours. 75 % demeurent ici. Et donc, au-delà des 15 jours, c'est la pression sur les services publics.
On va en discuter avec l'analyste politique Dominique Vallière que je retrouve à Québec. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, Noémie.
Alors, est-ce que c'est le signe qu'on est vraiment en période préélectorale? Si des questions comme le chemin Roxham et la quantité de personnes que le Québec pourrait accueillir et de quelle manière, ça revient dans l'actualité?
Bien, rapportons-nous en 2018. Et il y avait des thèmes qui étaient présents, le chemin Roxham et toute la numérologie autour du nombre d'immigrants qu'on peut accueillir tout en les traitant dignement. En 2018, il y avait des partis qui proposaient de mettre une clôture sur le chemin Roxham. Il y en avait qui disaient qu'on pouvait accueillir seulement 30 000 immigrants par année, d'autres disaient 40, d'autres disaient 75. On rejoue un peu dans le même film. Et c'est pour ça que moi, ça m'a fait un peu sourire ce matin. Il y a des nouvelles qui arrivent comme ça parce que c'est l'actualité qui le commande. Il y en a d'autres qui reviennent des fois parce que ça peut être un peu plus commode.
Oui, puis il y a quelque chose aussi de déshumanisant dans la manière dont on parle de ces personnes-là comme en termes de nombre comme ça, comme si ce n'était pas des vraies personnes. Mais donc, quand on dit fermer le chemin Roxham, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est pas simplement barrer cette route-là, c'est qu'il y a des ententes internationales complexes derrière ça.
Il y a des ententes internationales complexes, dont celle des tiers pays sûrs, qui disent que si vous rentrez donc dans un pays qui est reconnu comme étant sécuritaire, par exemple les États-Unis, vous devez vous présenter dans le poste de ce premier pays-là, et c'est ce premier pays-là qui va vous recevoir. Mais là, ce qui se passe avec le chemin Roxham, c'est qu'il y a des gens qui arrivent d'un peu partout, que ce soit d'Amérique centrale ou qui arrivent même d'ailleurs dans le monde, qui débarquent aux États-Unis et qui font tranquillement le chemin vers le Canada. Mais là, mettons-nous à la place d'un demandeur d'asile, OK? Je suis demandeur d'asile 30 secondes. Moi, je peux me passer par le poste de Saint-Bernard-de-la-Colle, auquel on va me dire « Non, 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 malheureusement, tu dois passer par le système d'immigration normal, où je sais qu'il existe un chemin clairement établi, il y a même une business pour amener des gens jusque-là, où est-ce que si j'y vais, bien, je vais être reçu, je vais pouvoir demander l'asile, mais plus que ça, je vais avoir accès à un certain nombre de services. On parle d'aide de dernier recours, pouvoir inscrire les enfants à l'école, des cours de langue notamment. Donc, c'est sûr que la personne qui quitte son pays pour des raisons politiques, religieuses, économiques, qui a cette espèce d'élan vital-là de se dire « Demain, ça va être mieux qu'hier » et qui arrive au Québec, se pose pas la question très longtemps. Et c'est sûr que c'est injuste pour celles et ceux qui passent par les voies traditionnelles, mais, et d'autant plus avec tous les dérèglements climatiques, ça va aller croissant. Mm-hmm. Donc là, l'occasion, la discussion qu'on a, c'est est-ce qu'on devrait tout de suite adapter nos lois? Est-ce qu'on devrait tout de suite donner des ressources supplémentaires aux divers ministères qui s'occupent donc de l'arrivée, de l'intégration des immigrants, oui, au Québec comme personne, mais aussi comme employé potentiel, donc le milieu du travail? Est-ce que c'est pas maintenant l'occasion de revoir tout ça plutôt que dans 5 ou 10 ans, quand il y aura beaucoup plus de gens qui vont continuer à voir le Québec comme une terre de salut?
Merci beaucoup, Dominique Vallière, pour ces observations. On se retrouve bientôt.
Merci beaucoup, Noémie. Au revoir.
Alors que le débat sur l'avortement ébranle les États-Unis, bien, de ce côté-ci de la frontière, le gouvernement Trudeau a annoncé de nouvelles mesures pour améliorer l'accès aux interruptions de grossesse pour les Canadiennes. Ma collègue Fanny Lachance-Paquette suit ce dossier. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Noémie.
Donc, de nouvelles sommes qui seront remises aux organismes qui œuvrent en santé sexuelle et reproductive.
Et ce que nous dit le gouvernement du Canada, c'est que ça n'avait aucun lien, le fait qu'on annonce ça aujourd'hui versus ce qui se passe aux États-Unis, que ce sont des montants, 45 millions, qui avaient déjà été annoncés dans le dernier budget. Alors, tout ça est un add-on. On peut trouver quand
45
même...
45 millions.
Oui, mais okay. Aujourd'hui, on a vraiment donné un 3,5, mais dans le dernier budget, on a prévu une vaste enveloppe de 45 millions pour les prochaines années. Alors, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est effectivement 3,5 millions de dollars sur 3 ans pour 2 organismes en particulier, donc Action Canada et la Fédération nationale de l'avortement du Canada. Et ces 2 organismes vont redonner par la suite à différents projets. Et l'objectif, bien, c'est vraiment de soulever certains obstacles qu'ont encore les femmes aujourd'hui lorsqu'elles veulent se faire avorter. Parfois, il n'y a pas de service dans leur région, manque d'informations aussi. Parfois, c'est loin hein, quand on veut se faire avorter. On habite en région éloignée. Alors, on va payer les frais de déplacement de ces femmes-là, des frais d'hébergement aussi. Et le message, je dirais, que les ministres voulaient vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que les Canadiennes ne vont pas perdre leur acquis. Au contraire, on va leur améliorer leur accès à l'avortement.
The freedom to choose also means having access to these services, no matter who you are or where you live in Canada. Mais c'est là que nous avons du travail à faire.
On a tous la responsabilité au Canada et ailleurs de défendre le droit des femmes. Et on le fait ici, et on s'attend à ce que d'autres élus et d'autres leaders politiques, économiques et sociaux ailleurs au Canada le fassent.
Donc, le gouvernement nous dit, le gouvernement Trudeau nous dit, c'est un engagement qu'on avait déjà pris, rien à voir avec les États-Unis, mais n'empêche que ce qui se passe aux États-Unis, ça inquiète. Les Québécois s'inquiètent, les Canadiennes.
Absolument. Il y a 70 % des Canadiens en ce moment qui se disent inquiets de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un sondage qui a été fait en fin de semaine par la firme Léger avec l'Association d'études canadiennes et on nous dit que le débat sur l'avortement, bien, on se demande s'il y a un impact possible au Canada. 46 % des répondants quand même qui disent oui, que 35 % qui disent non. Et quand on questionne les Canadiens à savoir quelle est votre position sur l'avortement, bien, on comprend qu'il y en a 79 % quand même des Canadiens qui sont pour l'avortement ici.
Donc, et 14 % qui sont contre. Donc, c'est une frange minoritaire de la population qui est contre. Cependant, ils se manifestent avec force. Demain, à Ottawa, une manifestation anti-avortement est prévue.
Qui est prévue devant la colline du Parlement à midi. C'est organisé par la Coalition Campagne pour la vie. Et notre collègue Anaïs Elbouche-Dainy se représente demain sur place et va vous rapporter tout ça.
Magnifique. Merci beaucoup, Fanny.
Merci.
Alors, on poursuit la discussion avec notre collaboratrice Valérie Beaudoin, qui est spécialiste en politique américaine. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir, Noémie.
Je suis heureuse de te parler aujourd'hui parce que, évidemment, ça continue de bouger aux États-Unis. Il y a quelques minutes, le Sénat américain a voté sur une loi, une mesure qui aurait permis de garantir le droit à l'avortement partout aux États-Unis. Et là, ça a échoué, malheureusement. Pourquoi?
En fait, c'était vraiment purement un vote symbolique. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les 60 votes nécessaires sur 100 pour faire passer cette mesure-là qui aurait finalement codifié, qui aurait transformé la décision Roe contre Wade en loi. Alors, on se basait vraiment sur le même principe de cette fameuse décision de 1973 qui est en ce moment menacée d'être renversée aux États-Unis. Et là, on n'a pas réussi à faire passer ça parce que justement, les républicains et les démocrates ne s'entendent pas. Et pourquoi je disais symbolique et pourquoi on l'a fait, Noémie? Pour dire, voyez, ce sénateur-là a voté de cette façon-là et les démocrates veulent l'utiliser en campagne électorale en disant, bien, ce sénateur veut enlever certains droits aux femmes et pour démontrer finalement, officiellement, quelle est leur position sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Et à noter qu'il y a quand même un démocrate qui a brisé la ligne de parti, qui a voté avec les républicains parce qu'il trouvait que cette loi-là qui codifiait Roe contre Wade allait un peu trop loin à son goût.
Eh bien, donc, ils n'ont pas une majorité, puis ils peuvent même pas compter sur tous les élus dans leur rang. Donc, c'était entièrement symbolique, mais c'est pour ça qu'ils y tenaient, les démocrates, quand même.
Oui, tout à fait, parce qu'on voulait envoyer un message fort et aussi démontrer qu'on tentait de faire quelque chose pour la population, parce que cette décision-là, pour rappeler brièvement aux gens, Roe contre Wade, si c'est renversé, on va renvoyer aux États la décision si c'est légal ou non dans certains États. On peut aller très loin, Noémie, dans les restrictions. Ça peut aller jusqu'à criminaliser l'avortement dès la conception. Alors, on veut protéger le droit à l'avortement pour les femmes aux États-Unis et c'est la seule façon actuellement possible pour garantir ça tant qu'on n'a pas la décision de la Cour suprême qui est attendue à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet.
Et là, il se passe des choses tout à fait inusitées dans certains États. Certains États envisagent de légiférer pour interdire la contraception.
Et ce n'est pas une fake news. J'aimerais vous dire que oui, mais il y a des élus républicains qui ouvrent la porte à quoi? À légiférer en matière de contraception. On parle ici du stérilet, on parle de la pilule du lendemain. Il y a entre autres le gouverneur du Mississippi qui veut des lois extrêmement restrictives et qui se dit ouvert à cette possibilité-là. Alors non seulement on enlèverait le droit aux femmes de choisir si elles veulent ou non avoir un avortement, mais également quelle méthode de contraception serait acceptée pour l'instant, parce qu'on pourrait un jour aller plus loin, on le comprend. Et dans un autre État comme la Louisiane, on veut criminaliser l'avortement dès la fécondation. Ça veut dire que in vitro pourrait être illégal. Et on tente de vérifier en ce moment avec cette loi-là si elle passe, si encore une fois la pilule du lendemain le serait aussi. Et on voudrait même criminaliser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient se retrouver derrière les barreaux dans certains États s'ils pratiquent des avortements ou s'ils aident une femme à se faire avorter. Donc, on va très loin. On est loin de juste limiter la possibilité en nombre de semaines. On veut vraiment légiférer de façon très radicale.
Et l'opinion publique américaine dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense? Parce que là, on est à 6 mois des élections de mi-mandat aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait être coûteux pour les républicains d'aller dans ce sens-là ou au contraire payant pour eux?
En ce moment, selon le dernier sondage, 64 % des Américains sont pour une situation où Roe contre Wade est maintenue. Alors, la situation qu'on a actuellement aux États-Unis où on garantit ce droit-là aux femmes. C'est donc une majorité qui souhaite ça. Alors, il faut quand même être prudent parce que les Républicains, dans certains États, ce pourcentage serait beaucoup plus élevé. Là, je vous parlais d'un sondage à l'échelle nationale. Et le message des Républicains en ce moment, c'est ne soyez pas trop extrémistes dans vos propos parce que, justement, ils ne veulent pas faire peur aux indépendants et aux Républicains les plus modérés.
Bon, bien, ça va très certainement être un enjeu dont on va entendre parler jusqu'à ces élections de novembre. Merci beaucoup, Valérie, de nous en avoir parlé
ce
soir.
Merci. Merci, Noémie. À bientôt.
La prière sera finalement maintenue à la Chambre des communes. Doit-on s'étonner du résultat de ce vote? On en discute avec notre collaborateur Christopher Nardi après la pause. Ottawa, une prière continuera d'être récitée au début des séances à la Chambre des communes. Le Bloc québécois a déposé hier une motion pour la remplacer par un moment de réflexion, mais la proposition a été battue lors d'un vote en Chambre cet après-midi. On en discute avec notre collaborateur sur la colline parlementaire, Christopher Nardi. Bonsoir, Christopher.
Bonsoir, Noémie.
Est-ce que ça avait la moindre chance de réussir, cette manœuvre du Bloc québécois?
Bien, écoute, c'était inusité, c'était surprenant. Bien, à vrai dire, il y a deux aspects surprenants à cette motion-là. La première, pour moi et je pense pour plusieurs autres Canadiens, c'est l'existence carrément de cette prière-là. Elle se passe derrière les portes closes avant que les séances publiques de la Chambre commencent. Donc, même moi, je ne savais pas que ça existait. Et donc, apprendre que ça existe toujours, bien, c'est la première surprise. Mais je te dirais que je ne peux pas dire que je suis étonné de voir que la motion est un échec, ultimement à cause de la réaction des autres partis, notamment hier les libéraux et les conservateurs qui ont dit ben pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Et donc, il n'y avait aucun intérêt pour amener ce changement-là. Et donc, non, je ne peux pas dire que je suis étonné que la motion ne passe pas, mais c'est sûr que la réflexion est maintenant entamée et c'est pas impossible qu'on en reparle éventuellement.
Puis les bloquistes ont voté pour la motion ainsi que la majorité des néo-démocrates. Mais la question, elle est bonne. Pourquoi est-ce que le Bloc québécois a jugé bon de soulever cet enjeu-là maintenant?
Bien, pour le Bloc et souvent pour le Québec, on s'entend, la laïcité est un enjeu gagnant, surtout au niveau politique. Donc, la motion a été amenée dans l'idée de continuer de parler de la laïcité aussi au fédéral. C'est sûr que hier, Justin Trudeau lui-même a dit « Bien, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce que vous avez profité de cette journée de l'opposition, comme on appelle, à la Chambre des communes, pour parler de ça lorsqu'on a tant d'autres enjeux à travers le monde qu'il faudrait adresser? » Mais c'était quand même intéressant aujourd'hui, Noémie, de voir le résultat du vote parce que, comme tu as dit, une grande partie du NPD a voté pour la motion, incluant le chef Jagmeet Singh. Alors, je ne sais pas si c'est un appui inattendu ou pas, mais c'est sûr que le caucus du Québec, lui, par exemple, des conservateurs, a voté contre. Et ce caucus-là appuie quand même ou disons, joue souvent un peu sur la ligne avec le projet de loi 21 qui est très populaire au Québec. Donc, ils ont évidemment... ne sont pas si à l'aise avec le concept de laïcité que de l'amener à la Chambre des communes.
Ah, intéressant, intéressant. Ce soir, la course à la chefferie du Parti conservateur est en cours et ce soir, le premier de deux débats officiels aura lieu à Edmonton et les six candidats seront présents sur scène. À quoi est-ce que tu t'attends?
Écoute, si ça ressemble quelque peu au débat officieux un peu de la semaine dernière, des étincelles, Noémie, voire des flammes. Alors, comme tu as dit, les cinq participants du dernier débat, donc Jean Charest, Pierre Poilievre, Leslyn Lewis, Scott Aitchison et Roman Baber, seront de retour sur scène. Mais ce soir, la variable, le nouveau venu, bien, c'est Patrick Brown qui avait décidé de se désister du dernier débat. Et donc là, on verra l'effet que ça fait sur les échanges. Mais c'est sûr que M. Brown, lui, il a passé la majorité de sa campagne à date loin des caméras, derrière des portes closes. Ça sera la première fois qu'on pourra l'entendre et le voir et voir surtout s'il prend, il part encore sur le chemin de guerre contre Pierre Poilievre, comme l'a fait Jean Charest au dernier débat.
Donc, lors de ce débat non officiel, les attaques personnelles avaient proliféré. Qu'est-ce qu'on surveille en particulier ce soir?
Donc, on surveille la dynamique, surtout Pierre Poilievre, Jean Charest et M. Brown aussi, c'est là, comme je disais, c'est la première fois qu'on le voit sur scène. Donc, il va y avoir plusieurs enjeux qui vont être abordés. Des enjeux qui, je pense, touchent un peu plus la population canadienne que le dernier débat qui était très axé sur des enjeux conservateurs. Donc, ce soir, on va parler de l'avenir du parti, de l'environnement et des changements climatiques, de la loi et de l'ordre et aussi, par exemple, les forces armées et l'énergie, évidemment. Donc, on va pouvoir entendre les candidats sur ces enjeux-là, mais On a bien dit cette semaine, il y a plusieurs ténors du parti qui ont averti qu'il fallait vraiment adoucir le ton et ne pas être aussi divisif qu'au dernier débat. Mais Noémie, je ne m'attends pas énormément à ce qu'on les écoute parce que les candidats ont dit cette semaine, on ne change pas une formule gagnante.
Et le débat en français aura lieu un peu plus tard ce mois-ci à Montréal. On va suivre ça attentivement. Merci beaucoup, Christopher.
Merci, Noémie.
Faisons le point sur le conflit en Ukraine au 77e jour de la guerre. Le Canada va organiser des vols non-lisés pour rapatrier des Ukrainiens au Canada. Les vols seront offerts aux personnes qui auront au préalable reçu une autorisation de voyage d'urgence, donc ce programme spécial mis sur pied par le fédéral pour les Ukrainiens. Sabrina Rivet est avec nous pour en parler. Bonsoir.
Salut, Noémie.
Un premier vol va arriver au Québec à la fin du mois de mai.
Le 29 mai, exactement. Ça va faire partie, en fait, d'un groupe de trois vols non-lisés qui vont provenir de Varsovie en Pologne. Il y a un autre vol non-lisé qui va atterrir du côté de Winnipeg le 23 mai prochain, également à Halifax le 2 juin prochain. Alors, dans tous ces vols-là, on parle d'environ 900 Ukrainiens qui vont être en mesure d'arriver au Canada. Donc, c'est à peu près 300 personnes par vol. Alors, Ottawa qui a réalisé en fait une entente avec un transporteur privé. Alors, c'est seulement les Ukrainiens, hein, comme tu l'as dit, qui ont cette espèce d'entente-là là, pour obtenir un visa qu'ils vont pouvoir venir en fait au Canada. Et il y a eu quand même une forte demande hein, depuis les dernières semaines. Alors, on parle du 17 mars au 4 mai, le Canada qui a approuvé les demandes de 91 000 500 Ukrainiens. Et au total, c'était quand même 204 demandes qui avaient été soumises au gouvernement canadien pendant cette période.
Il y a aussi également
204 000, oui, voilà, demandes au total qui avaient été réalisées. Il y a eu également des réactions, notamment du Bloc québécois. Alors, il s'agit du porte-parole en matière d'immigration, Alexis Duceppe. On peut d'ailleurs aller voir sa réaction. Alors, il a précisé, enfin, près de trois mois après le début de la guerre déclarée à l'Ukraine par l'envahisseur russe, bien, le gouvernement canadien qui a finalement accédé à notre demande présentée au jour 7 du conflit. Et maintes fois répété depuis, de non-liser des avions pour les réfugiés ukrainiens, Noémie.
Et sur le terrain, Sabrina, l'étau se dessert sur Kharkiv, dans le nord-est, dis-je, du pays.
Voilà, exactement. Donc, ce sont quand même des nouvelles qui sont encourageantes, qui nous proviennent de cette région-là. Mais quand même, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne veut pas crier victoire tout de suite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a fait une conférence devant des universitaires du côté de la France et il a dit qu'il se demandait encore pourquoi ils étaient en conflit. On peut aller l'écouter.
Як же це стало можливим і чому жодної глобальної чи європейської інституції зараз недостатньо, щоб зупинити цю війну? І знаєте, я не хочу, щоб це залишилось риторичним питанням або риторичними питаннями. На ці питання дійсно потрібно знайти відповіді, бо ці питання, власне, про нас з вами, про Європу, про те, як жити нам всім.
Et finalement, en terminant, Noémie, il y a l'ONU qui s'inquiète concernant la faim dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est qu'en raison du conflit en Ukraine, on sait que l'Ukraine s'est considérée un peu comme le grenier de l'Europe, notamment un exportateur de blé quand même assez important. Donc, on a peur que ça augmente, par exemple, des pénuries de nourriture un petit peu partout à travers le monde.
Tout à fait tragique. Merci beaucoup, Sabrina.
Au revoir.
Des élus municipaux de partout dans la province ont rendez-vous demain et vendredi à Québec à l'occasion des Assises de l'Union des municipalités du Québec. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis les élections municipales de novembre qui ont porté au pouvoir une nouvelle génération de maires et de mairesses progressistes préoccupés par les changements climatiques, l'étalement urbain et le transport collectif. Je reçois le président de l'UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté. Bonsoir, Monsieur Côté.
Oui, bonsoir.
Quand on lit les déclarations, les positions de vos collègues maires et mairesses, et il y a plusieurs observateurs qui le notent, on dirait que les élus municipaux sont en train de devenir la véritable opposition au gouvernement caquiste. Est-ce que le rapport de force entre les villes et le gouvernement est en train de changer avec cette nouvelle garde au pouvoir depuis novembre?
D'une part, il y a assurément une nouvelle garde qui est arrivée dans le milieu municipal suite à la dernière élection. On a vu aussi arriver davantage de jeunes, davantage de femmes dans le décor politique, et c'est très sain pour notre monde municipal. Ceci étant dit, est-ce qu'on est une opposition au gouvernement? Non, la réponse est non. Le gouvernement du Québec est un partenaire du milieu municipal. On a fait des avancées significatives ces dernières années ensemble, et on travaille pour le même monde. C'est ça la réalité, c'est qu'on travaille pour les mêmes citoyens, mais avec des enjeux un peu différents, avec des responsabilités un peu différentes.
Votre collègue, maire de Québec, Bruno Marchand, s'exprimait aujourd'hui en marge de l'ouverture des assises. Puis lui, il dit qu'il est tout à fait à l'aise éventuellement de jouer ce rôle d'opposition. Et il a qualifié le discours du gouvernement Legault sur l'étalement urbain de fallacieux, populiste et dangereux. Est-ce que c'est utile, ce genre de déclaration, quand on veut considérer un gouvernement comme son partenaire?
Ben, en fait, il y a toujours des déclarations un peu à l'emporte-pièce de part et d'autre, et c'est correct. Honnêtement, ça stimule l'imaginaire, ça fait en sorte qu'on peut avoir davantage les coups des franges pour en débattre. Ceci dit, le débat doit se faire toujours dans le respect. Pour nous, ce qui est important présentement dans le cadre des assises de l'UMQ, c'est de mettre de l'avant les priorités du milieu municipal de l'ensemble du Québec, notamment la question de l'habitation, de la lutte au changement climatique, et le dossier de l'heure présentement, évidemment, c'est la question de l'étalement urbain, la question de la densification urbaine, mais aussi la notion d'occupation du territoire qui est loin d'être en opposition avec cette notion de densification-là. La densification des milieux urbains doit se faire à géométrie variable en fonction de la réalité propre à chacun des territoires, à chacun des terrains. La densification à Gaspé ne sera pas de la même manière qu'à Québec ou à Montréal, par exemple.
Mais on sent quand même que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ce que vous me dites sur l'étalement urbain, l'importance de densifier les villes, l'habitation... Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement Legault en ce moment, dont vous avez besoin pour réaliser vos projets?
Bon, en fait, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que le gouvernement sur tous les dossiers. Ce serait faux de prétendre qu'on est toujours parfaitement au diapason. On est des partenaires, et dans des partenariats, bien, ça arrive parfois qu'il y a des éléments qui accrochent un peu. Dans les derniers jours, on a vu certaines déclarations de certains ministres versus certains maires qui n'étaient pas totalement au diapason. Par contre, dans l'ensemble, la relation du gouvernement du Québec avec l'Union des municipalités du Québec, avec le milieu municipal, globalement, on est d'excellents partenaires et on travaille pour notre monde. On travaille pour les gens du terrain, on travaille pour les citoyennes et les citoyens du Québec.
Le premier ministre François Legault va être aux assises demain matin. Il va s'adresser aux congressistes. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement de la CAQ à l'approche de ces élections provinciales de l'automne?
Bon, à l'approche des élections, évidemment, on va s'attendre à ce que le gouvernement prenne certains engagements à l'égard du milieu municipal, à l'égard des citoyennes et des citoyens qui habitent ce territoire municipal-là. Par exemple, en habitation, il y a eu des avancées de fait dans les dernières années ou même dans les derniers mois avec le nouveau programme Habitation abordable Québec. Mais on s'entend que ça va prendre davantage d'actions, davantage de programmes, davantage de soutien pour combler le déficit structurel au niveau du logement dans toutes les régions du Québec. Au niveau de la lutte au changement climatique, il y a des belles sommes qui ont été annoncées dans le dernier budget de Québec. Maintenant, ces sommes-là doivent atterrir sur le terrain, justement. Et en aménagement du territoire, ça doit atterrir aussi dans une nouvelle politique nationale d'aménagement du territoire qui va tenir compte de la réalité de chacun des territoires, qui sera modulée en fonction de la réalité de chacun des territoires.
Beaucoup ce genre de trucs. Beaucoup de discussions en perspective. Je vous les souhaite harmonieuses. Merci, Daniel Côté, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. À la prochaine.
On le sait, le prix des maisons dans la grande région de Montréal est en forte hausse depuis le début de la pandémie. Et une étude réalisée par la communauté métropolitaine de Montréal nous apprend que ces augmentations sont parmi les plus importantes en Amérique du Nord. On en parle avec Camille Lorrain-Desjardins. Bonsoir.
Allô, Noémie.
Donc, c'est un portrait de l'habitation qui nous dit que le prix des maisons a presque doublé en 10 ans dans le Grand Montréal.
Exactement. Puis pendant cette même période-là, bien, l'augmentation des salaires, elle s'est limitée à 40 %. Donc, évidemment, bien, c'est pas surprenant.
Il y a un manque à gagner.
Exactement. C'est pas surprenant qu'on parle de difficultés d'accès à la propriété dans ce contexte-là. Et donc, c'est ça, c'est une tendance qui était déjà là avant la pandémie, mais elle s'est vraiment accélérée dans les deux dernières années. Uniquement de 2019 à 2021, on remarque une hausse de 47 % des prix des maisons unifamiliales et de 42 % pour les copropriétés. Donc, bon, le prix médian actuellement est de 375 000 $ pour une copropriété et de 523 000 $ pour une maison unifamiliale dans le Grand Montréal. Le gros problème, c'est que l'offre n'a pas suivi la demande. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie avec le télétravail, la baisse des taux d'intérêt, l'augmentation de l'épargne des ménages. Tout ça a encouragé plus de gens à vouloir une propriété. Puis, il n'y en avait pas suffisamment sur le marché. Donc, je vous propose d'écouter Charles Brand de l'Association professionnelle des courtier immobilier du Québec, suivi de Philippe Rivet, qui est l'auteur de l'étude pour la CMM.
Un manque d'offres assez conséquent concernant les unifamiliales, parce que les unifamiliales ont été prises d'assaut dans un contexte de pandémie. Au début des années 2000, on a connu des niveaux de surchauffe comparables. Ce qu'on n'a pas connu, par contre, c'est des niveaux de surenchère aussi importants que ce qu'on en connaît actuellement.
On attend dans la région métropolitaine, là, selon les dernières projections démographiques, 243 000 nouveaux ménages d'ici les 20 prochaines années. Donc, si on ne veut pas avoir à empiéter sur les milieux naturels et les milieux agricoles, il va falloir poursuivre là, dans la densification résidentielle.
Bon, justement, Camille, on parle d'accès à la propriété, mais la crise du logement aussi locatif, oui, est aussi documentée dans cette étude.
Exactement. Donc, c'est pas plus facile pour les locataires. Les taux d'inoccupation, en fait, sont très, très bas. À Montréal, le taux est à 3,9 %, donc c'est un peu plus élevé, mais c'est parce que pendant la pandémie, il y a eu moins d'immigration, moins d'étudiants étrangers, donc tout ça, ça va revenir à la normale. Et dans plusieurs villes autour, dans les couronnes sud et nord, bien, le taux d'inoccupation est à moins de 1 % souvent. Ça, c'est très préoccupant parce qu'il n'y a presque pas de loyer disponible, donc c'est très élevé. Et en 2021, donc, le loyer moyen demandé pour un logement de deux chambres qui était disponible pour la location était de 1140 $, et ça, c'est une augmentation de 3,7 %, là. Donc, on peut écouter Cédric Dussault. Il est du regroupement des comités logements.
Ce que ça vient confirmer surtout, c'est que la crise, elle touche plus seulement là, les quartiers centraux de Montréal. C'est vraiment une crise là, qui s'étend partout à travers le Québec. Ça touche des régions qui n'étaient pas nécessairement très, très bien servies en groupe de défense des droits des locataires. Là, on se retrouve dans des endroits comme les Laurentides où les groupes qui sont là n'arrivent pas à combler les besoins. Il y a des demandes de locataires qui explosent.
Donc, en terminant, je voulais vous mentionner que ce portrait-là va servir à mettre sur pied une première politique de l'habitation pour la communauté métropolitaine de Montréal.
À suivre. Merci, Camille.
Merci.
Le projet de loi 96, donc la réforme de la loi 101, continue de faire jaser. Hier, les Premières Nations ont demandé d'être exemptées en qualifiant au passage le projet de loi de colonialiste et paternaliste. Tandis que dans la communauté anglophone, une autre manifestation est prévue samedi sur le campus du Cégep Dawson pour dénoncer la réforme. Mon collègue Emmanuel Runega a rencontré ces communautés qui s'interrogent et qui témoignent d'un profond malaise.
J'avais 8 ans. Quand je suis arrivée ici, j'étais une réfugiée. Je suis allée dans une école anglophone parce qu'à l'époque, moi, je ne suis pas catholique et je n'avais pas accès à l'école francophone. Je me sens chez moi et je me sens comme une Québécoise et je me sens insultée par les proches du CAQ. Je me sens comme si ma présence dérange.
My immediate reaction is anger, hurt, frustration. We are struggling and fighting to retain our language, which we lost through years of this colonization. We've taken on that whole responsibility here to teach our children French, English, and Ganyagaha. And when they leave here, that does mean that they're obviously some are not all proficient in all three languages. There is total disregard from the province to even consider and think and do any consultation with First Nations people when developing these bills and treat us basically as though we are immigrants within our own Indigenous lands.
Je vois ça comme beaucoup plus ouvert que la majorité, je pense, de la communauté anglophone, parce que si on revient à la loi 101, ce que ça a fait, c'est ça nous a amené plus dans la société. Le fait que moi, je peux passer une entrevue en français où mes parents n'étaient pas capables, c'est à cause de la loi 101. On va toujours être capable de parler l'anglais chez nous, dans les rues, dans les magasins, dans la société. Promouvoir le français, par contre, ça nous aide à avoir une langue commune pour le Québec pour assurer de garder la culture qu'on a en bon état pour des générations à venir. Et je me sens pas menacé comme un anglophone du tout. Et je ne vais jamais l'être parce que je ne suis pas une victime. La loi 101, la loi 96, les lois qui s'en viennent, ils nous aident à prendre notre place dans la grande société.
Les anglophones ont histoire longue au Québec. C'est pas d'hier, on parle des centaines d'années. Et nous avons la communauté anglophone, les anglophones du Québec, ceux qui ont resté, comme moi, ont accepté la loi 101. Nous avons accepté l'importance de protéger le français, mais quand même, c'est comme si jamais assez. C'est jamais assez.
Because the only time we're ever seen and acknowledged is when there's a bridge blocked or when there's a railroad blocked. And then we're looked at negatively and the relationship is not coming together from a nation to nation of understanding one another.
Au procès du responsable des attaques au sabre dans le Vieux-Québec, les avocats ont livré leur plaidoirie. C'était leur dernière occasion de présenter leur vision de l'état mental de l'accusé lorsqu'il a tué deux personnes et tenté d'en tuer cinq autres le soir de l'Halloween 2020. Je retrouve Laurence Royer à Québec. Bonsoir.
Bonsoir, Noémie.
La crédibilité des experts en santé mentale a été au cœur des plaidoiries.
Oui, la Couronne, comme la Défense, a tenté de convaincre le jury d'accorder une importance particulière au témoignage de leurs experts parce que les différents experts des parties s'entendent pas sur les raisons qui auraient poussé Carl Giroir à agir. L'expert de la Défense se croit qu'il est schizophrène et qu'il était en pleine psychose le soir des attaques. Donc, il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était mal. Les experts mandatés par la Couronne croient plutôt qu'il est narcissique et qu'il a réalisé un fantasme malveillant. Donc, que c'était conscient et prémédité. Et c'est l'avocat de l'accusé, Pierre Gagnon, qui a été le premier à prendre la parole. Il a présenté le curriculum vitae de son expert, le docteur Gilles Chamberlain, pour montrer sa crédibilité. Il a notamment souligné le fait qu'il est reconnu par ses pairs, même à l'international. Il a ensuite défait la conclusion de l'expert de la Couronne, le psychiatre légiste Sylvain Fauché. Il a prétendu que son opinion avait moins de valeur parce qu'elle était basée sur une évaluation, une technique d'évaluation qui est encore sous étude. Il s'est même attaqué à la personnalité du docteur Fauché. Il estime que pendant son témoignage, il était davantage présent pour faire un duel avec l'avocat que présenter et défendre son diagnostic.
Et de son côté, la Couronne aussi s'est attaquée à l'expert de l'autre partie.
Oui, le procureur... Tout à fait, le procureur de la poursuite, François Godin, qui a tenté de démontrer que sa conclusion n'avait pas de sens. Il a soumis la question suivante au jury. Pourquoi quelqu'un de psychotique qui est obsédé par une mission de tuer des gens depuis 6 ans ne parle plus jamais de sa mission après les attaques et ce, sans avoir pris de médication? Donc, le jury devra se positionner sur cette question. Et concernant les compétences des psychiatres, Maître Godin affirme que les deux experts sont compétents. Il a plutôt invité le jury à se pencher sur la qualité du travail qui a été fait. Et justement, il en a profité pour miner la qualité du travail du docteur Chamberlain en faisant ressortir qu'il manquait là, certaines informations dans son rapport.
Alors, quelles sont les prochaines étapes dans ce procès, Laurence?
Donc, dès demain, le juge doit commencer à présenter ses directives. Et il va poursuivre sa présentation lundi pour éviter de séquestrer le jury pendant la fin de semaine. Donc, le jury va commencer ses délibérations lundi et on devrait avoir un verdict donc au courant de la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Laurence, d'avoir suivi ça pour nous.
Bonne soirée.
Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Noémie.
Alors là, c'est pas un, mais deux petits rorquals qui se trouvent dans le fleuve à la hauteur de Montréal.
Oui, c'est fou, hein? Deuxième baleine qui est arrivée, visiblement ce midi, là, on dit qu'elle a été aperçue la première fois à 12h30, signalée à 12h30. L'animal a été repéré à plusieurs reprises dans le fleuve Saint-Laurent. Et là, il se trouverait dans le même secteur que le premier cétacé là, qui est arrivé dimanche. Il pourrait s'agir d'un individu qui a été vu lundi à Trois-Rivières et puis vis-à-vis Varennes ce matin. Alors voilà, on va en parler d'ailleurs ce soir à 22h avec Robert Michaud du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins.
Excellent. Par ailleurs, il y a plus d'une dizaine d'ex-gymnastes qui demandent de pouvoir poursuivre Gymnastique Canada en action collective.
Oui, et également des fédérations sportives provinciales, dont celle du Québec. On parle d'une vingtaine de victimes potentielles qui allèguent avoir subi des sévices psychologiques, physiques et dans certains cas même sexuels. L'athlète à l'origine de la plainte, c'est Amelia Klein. Elle allègue avoir été victime, entre autres, de détresse
stress provoqué par l'entraînement, des blessures au cou, au dos et à des douleurs chroniques.
Et à 22 h, vous gardez un œil sur le débat, la direction du Parti conservateur.
Geneviève Tellier sera avec nous.
Super. Merci, bye Michel. Bye. À demain, tout le monde.